I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Bienvenue au Jardin de Parole, une émission de votre hôte Michel Giroux. Notre invitée du jour est Elisabeth Perron. Elle va nous faire entendre des extraits d'un discours de l'historien, éditeur, académicien Pierre Nora. Cette allocution, il l'a présentée lors de la cérémonie La Haskara au mémorial de la Shoah en 2015. La Haskara est une commémoration dédiée au souvenir des victimes sans sépulture de la Shoah. Elle a lieu chaque année au mémorial de la Shoah à Paris, fin septembre. Après le discours d'une personnalité, Boris Cyrulnik, Georges Charpak, Robert Badinter, pour ne citer que ceux que nous avons entendus, mon mari et moi, on entend un rabbin réciter le Kaddish, c'est-à-dire la prière des morts.
Un jour de 1945, j'avais 14 ans, mon père, chef de service à l'hôpital Rothschild, avait rapporté à la maison des photos de camps qu'un journaliste lui avait confiées avant de mourir d'une maladie contagieuse contractée pendant son reportage. Il avait hésité à les montrer en famille, s'y était décidé pour mes deux frères aînés qui revenaient du Vercors. Il a fini par me les montrer, j'en ai été comme foudroyé. C'étaient les images devenues bientôt classiques, ces corps qui n'en étaient plus, ces yeux hagards, cet homme écartelé sur un barbelé électrifié, ces tas de cadavres qui n'étaient déjà plus que des squelettes, toutes ces images emblématiques qui devaient hanter notre imaginaire et devenir les fondamentaux de la conscience. Un choc, métaphysique aussi bien que physique. La vie n'a plus jamais été la même après. Comment l'homme avait-il pu faire ça à l'homme ? C'était, sans que je me le formule clairement à l'époque, l'acte inaugural de l'autodestruction de l'espèce humaine. Le tragique n'a plus cessé de m'habiter, comme il n'a plus cessé d'habiter l'historien que je suis devenu. D'où ce partage en moi, mais n'en va-t-il pas de même pour chacun d'entre vous, entre une fascination pour tout ce qui concerne la chose, une attirance invincible pour ce trou noir, le sentiment, si l'on s'en écartait, d'être infidèle à ce qui seul comptait, et un rejet brutal qui va jusqu'à la volonté de n'en plus rien savoir et de remonter vers le jour, vers la vie, puisque de toute manière et en fin de compte, on ne serait pas plus avancé. J'ai quand même beaucoup lu, comme vous tous, beaucoup appris, mais n'ai jamais pu me résoudre, par exemple, à aller à Auschwitz. 1985, grande année mémorielle, que domine de toute sa hauteur et de son importance le film de Claude Lanzmann, qui donne pour l'éternité son nom à la chose. On ne peut pas ne pas remarquer que dans la grande vague de la mémoire, qui s'abat sur la France à la fin des années 70 et au cours des années 80, il y a un noyau juif. Et à l'épicentre de la vague, il y a la Shoah, qui, dans ces années-là, a pris une part de plus en plus centrale et même fondatrice dans la constitution d'une identité juive. Le judaïsme, la conscience juive, transitait par, aboutissait forcément à, et se confondait, plus ou moins, avec la Shoah. Et même si ce n'était pas d'elle dont on parlait directement, c'était elle qui était derrière tout cela et inspirait notre regard. Je n'aurais sans doute jamais fait à l'histoire, à la France, l'apport de la dimension mémorielle si je n'avais pas été juif et juif de cette génération. La Shoah a été à l'époque la matrice et le parangon de la mémoire. L'est-elle encore aujourd'hui ? Rien n'est moins sûr. Le monde a changé, et même de plus en plus vite ces dernières années. Le temps aussi a fait son œuvre. Et c'est une autre économie du souvenir, un autre traitement de la conscience qui sont en train de se mettre en place. Ce 70e anniversaire intervient à un moment charnière. Il correspond évidemment au passage de ceux qui ont été marqués, directement ou indirectement, par l'expérience vécue, à ceux qui ne la connaîtront plus que par ses traces. Le passage classique de la mémoire à l'histoire. Cette période suppose la cohabitation ultime des derniers survivants, des contemporains et de leurs descendants, avec ceux bien plus nombreux, pour qui la Shoah non seulement ne représente plus rien, mais sont saturés de son évocation. Ils sont même parfois franchement hostiles. Même les plus concernés des écrivains et des cinéastes ne savent plus trop sur quel ton en parler et pour s'en sortir, finissent parfois par recourir à la dérision, à la caricature, à la satire, voire même au burlesque. L'éloignement de la tragédie, l'entrée de la Shoah dans son âge historique, ne laisse pourtant craindre, à mon sens, aucun éloignement de sa présence. Je dirais même le contraire. À une approche affective, sentimentale, endeuillée, s'en est substituée une autre, interrogative, analytique et critique, où c'est l'écart même qui nous rapproche de ce qui n'est plus nous. Il y a tout à parier que la Shoah connaîtra une évolution du même type et encore plus affirmée. Très rares sont en effet dans l'histoire les événements qui ont un caractère fondateur absolu. Ce qui résiste à toute explication et qui, à ce titre, appellent en permanence des éclaircissements qui n'éclairent pas vraiment, mais augmentent encore leur charge énigmatique et émotionnelle. La Shoah est évidemment de cela. Plus on en sait, moins on la comprend et plus on veut en savoir. La disproportion entre l'expérience vécue et le récit qu'il était possible d'en faire, les mots capables d'en rendre compte, est apparue très tôt dans les premiers témoignages, comme ceux, par exemple, de Robert Antelme ou de Primo Levi. Cette disproportion n'a fait qu'augmenter avec le temps et elle génère un cortège interminable. Je ne vois pas d'autre événement dans l'histoire qui ait suscité une littérature aussi abondante, un archivage documentaire et filmique aussi pléthorique, l'exposition ici même au mémorial des archives russes en est une preuve, un commentaire aussi constamment renouvelé, une telle moisson de témoignages individuels, autant de centres consacrés à l'histoire et à la commémoration, à l'information et à la communion. Il est très difficile de savoir quelle forme prendront et devraient prendre les véhicules de la transmission, surtout dans l'enseignement. Mais on peut prévoir en toute certitude que si la perte elle-même est irrémédiable et irréparable, la béance historique qu'elle a creusée n'est pas près d'être comblée. Le plus inquiétant aujourd'hui pour la mémoire de la tragédie et pour les Juifs en France n'est pas tant la désacralisation imposée par le passage du temps que la flambée d'une forme nouvelle d'antisémitisme. Elles s'alimentent à plusieurs sources. Il y a l'ancien antisémitisme de droite, qu'on aurait pu croire résiduel et condamné au silence, qui se réveille et se régénère à la montée d'un nationalisme d'extrême droite, lequel peut se combiner avec le renouveau d'un catholicisme identitaire qu'on a vu s'exprimer, par exemple, dans les manifestations contre le mariage pour tous ou celle du jour de colère en janvier de l'année dernière. Il y a surtout, dans une partie de plus en plus large de la gauche, un antisionisme de plus en plus difficile à distinguer d'un antisémitisme inavoué. L'engrenage du conflit israélo-palestinien et l'absence de toute perspective de paix ne peuvent que le renforcer tous les jours davantage. Il y a enfin un antisémitisme musulman que l'irruption meurtrière de l'islamisme radical, même condamné par beaucoup de musulmans, a rendu difficile à méconnaître ou à sous-estimer. La montée en puissance de ces trois types nouveaux d'antisémitisme a déjà de quoi inquiéter, mais leur mélange peut devenir explosif. L'ancien antisémitisme, si odieux fut-il, n'aurait pas pu déboucher sur l'extermination sans la guerre et l'occupation nazie. Ce nouvel antisémitisme, qu'on peut appeler à la suite de Pierre-André Taguieff une judéophobie, pour distinguer sa spécificité, se nourrit de lui-même, de l'isolement d'Israël et de l'évolution du monde. Jusqu'où peut-il ne pas aller? Il ne peut pas, grâce au ciel, déboucher sur une politique d'État. Mais cela n'empêche pas que nous soyons de plus en plus seuls. Je n'aurais jamais cru, de mon vivant, entendre dans les rues mort aux Juifs. Que ceux qui profèrent ces cris ne sachent pas ce qu'ils disent rend ces cris encore pires. En janvier dernier, le président de la République et le Premier ministre ont trouvé les mots justes et forts pour dire que, sans les Juifs, la France ne serait plus la France. Mais quel chemin brusquement parcouru pour que cette expression, qui fait écho au funèbre Judenrein, puisse seulement venir aux lèvres et paraître aujourd'hui s'imposer. Et n'y eut-il, en ce sinistre mois de janvier, que les morts de l'hyper-cachère, la mobilisation aurait-elle été supérieure à celle presque inexistante qu'il y eut pour les victimes de Mohamed Merah? Nous sommes loin de Copernic. Où allons-nous si les attentats contre les Juifs en arrivent à ne plus concerner que les Juifs? Les départs pour Israël qui se sont accélérés cette année sont un signe très alarmant. Sans doute leur nombre reste-t-il limité, sans doute ne s'agit-il que d'une fraction exposée de la communauté. Mais au-delà des choix individuels et familiaux, parfaitement légitimes et qui ne concernent que ceux qui les font, ils ont une signification qui les dépasse. Les deux derniers siècles ont tissé entre la France et les Juifs, qu'elle a été la première à émanciper, un lien d'une intensité et d'une intimité qui engage au plus profond l'une et les autres. La Révolution, l'affaire Dreyfus, Vichy, chacun de ces grands moments de la définition identitaire de la France a été en même temps une date clé du destin juif. Chacune de ces dates clés a été, à sa manière, à travers crises et souffrances, une étape en fin de compte supplémentaire dans l'insertion nationale et républicaine des Juifs. La France sans les Juifs, leur départ, sur lesquels, je le répète, il n'y a aucun jugement à porter, je les ressens personnellement comme la rupture d'un pacte historique, une déchirure symbolique. La célébration de cette Askara voit donc la rencontre de deux phénomènes porteurs, chacun d'une charge émotionnelle forte. La conscience encore vive d'un passé de plus en plus lointain et l'anticipation des orages de l'avenir. Cette collision entre la mémoire longue et les menaces du présent donne à cette cérémonie, à laquelle je vous remercie de m'avoir associé, sa résonance bien particulière. C'est elle qui rend si nécessaire que nous soyons aujourd'hui réunis tous ensemble et que nous le restions toujours, comme le seront, j'espère, ceux qui viendront après nous.
Nous vous laissons, chers auditeurs, sur ces extraits du discours de Pierre Nora, prononcé lors de la cérémonie de Askara au Mémorial de la Shoah en 2015. Nous nous retrouverons en septembre pour une nouvelle année du Jardin de Parole. Au revoir, bonnes vacances.
Of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the
into a beautiful symphony of brotherhood.